Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70. Charlotte Hydrac.
Et bonjour ou rebonjour, bienvenue à toutes et à tous, où que vous soyez. Dans un petit instant, vos questions sur l'actualité, vous le savez, les journalistes de RFI et des spécialistes viennent vous répondre en direct. Et puis à suivre, notre débat après la suspension du Soudan par l'Union africaine, suspension jusqu'à la mise en place d'une autorité civile de transition. Est-ce suffisant selon vous pour faire pression sur les militaires au pouvoir? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de l'UA? Il est encore temps pour nous appeler. 00 33 9 693 693 70. Le courriel, je vous le rappelle, appel au pluriel .actu@rfi.fr. Vous avez aussi Facebook ou Twitter pour vous exprimer. Vous avez l'embarras du choix. N'hésitez pas. On commence donc avec vos questions à la rédaction. Et c'est Tim qui ouvre le bal. Bonjour Tim, vous êtes à La Corogne en Espagne.
Bonjour Charlotte.
On vous écoute.
Merci. Je disais alors, la campagne pour les élections présidentielles en Mauritanie a été lancée, pour être un peu précis, le 22 juin. Les candidats de l'opposition craignent un hold-up électoral en faveur du dauphin du président. Je voulais savoir quels arguments avancent-ils pour cela? Quelles sont les promesses de campagne d'Ould Razouani?
Alors, on va d'abord revenir sur votre première question. Effectivement, la campagne officielle a commencé vendredi dernier en vue de la présidentielle. Donc, cette campagne, elle va durer 2 semaines jusqu'au 20 juin. Le scrutin, vous l'avez rappelé, ce sera le 22 juin. Les candidats ont donc là 2 semaines pour convaincre. Ils sont 6 au total pour succéder à Mohamed Ould Abdelaziz, sachant que le président mauritanien sortant au pouvoir depuis 10 ans, lui, n'a pas le droit de se représenter pour un troisième mandat. Vous le disiez, c'est le général Ould Razouani, candidat du parti au pouvoir, qui est son dauphin. C'est un fidèle du président sortant. Et on est en ligne avec Édouard Dropsy pour nous éclairer sur cette élection mauritanienne à venir. L'un des correspondants de RFI à Nouakchott. Bonjour Édouard.
Bonjour Charlotte, bonjour Tim.
Alors notre auditeur se pose la question, les candidats de l'opposition qui disent craindre un hold-up électoral en faveur de Mohamed Ould Razouani, quels sont leurs arguments? Pourquoi cette crainte-là?
Alors effectivement, plusieurs candidats dénoncent effectivement une campagne à deux vitesses. Ould Razouani, c'est le compagnon de coup d'État du président Aziz. Puis il a été à la tête de l'état-major pendant 10 ans et ministre de la Défense pendant 6 mois.
C'est un très proche.
De sa candidature, un très très proche du président Aziz. Et c'est clairement le candidat du système. Et en Mauritanie, le système a un peu carte blanche sur les moyens déjà. Il bénéficie des moyens de l'État pour sa campagne électorale. Plusieurs ministres, dont ceux du pétrole ou celui de l'économie, mettent à disposition leurs moyens ministériels. Quand l'opposition se déplace en convoi de voiture, le candidat du PR, lui, se déplace en avion. Mmh. Et il ratisse le pays de manière bien plus efficace. L'opposition est d'ailleurs actuellement en train d'étudier la légalité de ses pratiques. Il y a une autre préoccupation de l'opposition, et qui n'est pas des moindres. C'est la composition de la CENI, la commission électorale chargée de suivre le bon déroulement des élections. Et bien sûr, les 11 membres de cette commission, les 11, soutiennent Mohamed Ould Razouani.
Ah oui, donc il y a une inquiétude sur la partialité de cette instance.
Exactement. Et d'ailleurs, cette série, ça a été l'objet d'une saga ces derniers mois pour savoir si un équilibre allait se faire. Rien du tout. Les 11 membres de la CENI restent du côté de la majorité. Mmh. Et on a un dernier volet dans la série de soupçons de favoritisme. C'était il y a une dizaine de jours, l'appel d'offres pour l'impression des bulletins de vote a été remporté par Zain Abidine, qui est le président de l'UMMP, le syndicat du patronat, et réputé comme proche de Razouani. Donc ça fait autant de faits qui font effectivement crier l'opposition au hold-up électoral.
Et il y a des questions, inquiétudes de l'opposition et questions sur les observateurs aussi. On entendait sur notre antenne l'opposant Biram Dahabaïd qui s'est dit inquiet de l'absence d'observateurs européens. Le gouvernement mauritanien a répondu que la Mauritanie avait les moyens de garantir une élection libre et transparente. Voilà pour les inquiétudes des candidats de l'opposition. Tim, vous aviez une deuxième question, vous avez commencé à l'esquisser. Je vous redonne la parole, on vous écoute.
Merci. Je voulais savoir si M. Khazouani a-t-il fait des annonces pour lutter contre le racisme qui est très important dans le pays.
Alors, sur les promesses de campagne d'Oul Razouani, sur son programme Édouard Dropsy, quels sont ses engagements et est-ce qu'il y a des annonces plus particulièrement pour lutter contre le racisme?
Alors ça, effectivement, des annonces et des promesses de campagne, il y en a. Son programme de campagne fait 52 pages, il est divisé en 4 parties, que sont la réforme de l'État, la relance de l'économie, la promotion de la diversité et le développement des services sociaux. Alors il propose pêle-mêle l'ouverture à l'opposition, le rayonnement de la culture islamique et la lutte contre la radicalisation. C'est un des chevaux de bataille de la présidence d'Aziz. Un système de financement de l'agriculture où il se prononce encore, vous avez peut-être pu l'entendre tout à l'heure en reportage, la problématique de l'eau.
Tout à fait.
S'engageant à ce que toute la Mauritanie soit raccordée à l'eau potable d'ici 2025. Ce qui paraît assez chimérique, mais qui a au moins le mérite d'être mis sur la table. Et ce programme est donc surtout un constat de tous les manquements de la Mauritanie.
Et sur le racisme, alors, notre auditeur se pose la question plus particulièrement pour lutter contre le racisme.
Eh bien, effectivement, la question du racisme, c'est une réalité en Mauritanie. Mais pas un mot évoquant le racisme dans le programme de Razouani. Quand les candidats de l'opposition parlent, eux, d'esclavage ou de racisme, Razouani, lui, parle de discrimination. Alors, on est dans une logique sémantique qui illustre le fait qu'il n'est pas extrêmement à l'aise avec ces questions. Cependant, dans son programme, il promet 10 000 logements sociaux pour les foyers les plus pauvres. Et en lisant entre les lignes, on comprend qu'il parle de ces minorités.
Tim à la Corogne, est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Oh, vraiment, je suis très satisfait déjà de satisfaction. Si vous voulez l'avoir, il faut faire retour à la RFI.
Ah, bon, on vous remercie beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir appelé également à Édouard Dropsy, donc l'un des correspondants de RFI en Mauritanie. On vous retrouvera évidemment, Édouard, sur l'antenne pour poursuivre cette campagne et cette présidentielle. Premier tour, donc je vous le rappelle, le 22 juin. Et si second tour il y a, eh bien, ce sera le 6 juillet. Bonne journée à Nouakchott. Retour au standard en ce qui nous concerne. On est à Bamako avec Aimé. Bonjour à vous, bienvenue.
Oui, bonjour Charlotte.
On vous écoute.
Oui, Charlotte, les États-Unis ont une nouvelle fois imposé des sanctions à Cuba, à qui je reproche de déstabiliser le régime de Nicolas Maduro. Alors moi j'ai deux préoccupations. La première est, quelles pourraient être les conséquences de ces sanctions sur l'économie cubaine?
Alors, on va commencer avec cette première question. Effectivement, les États-Unis considèrent que Cuba joue un rôle déstabilisateur, entre guillemets, en Amérique latine. Et ils accusent, vous le disiez, la Havane de soutenir le régime de Nicolas Maduro au Venezuela. Et Washington a frappé, en quelque sorte, là où ça fait mal, hein, entre guillemets, sur l'industrie du tourisme, qui est devenu un secteur essentiel pour l'économie de l'île. Pour vous répondre, Aimé, on est en ligne avec Mario Menendez, enseignant-chercheur à Sciences Po Rennes, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis et des migrations caribéennes. Bonjour.
Bonjour.
Pour répondre d'abord à Aimé sur les conséquences de ces sanctions sur l'économie cubaine, on imagine que c'est un gros coup dur, hein, pour la Havane.
Ah oui, c'est quelque chose que la Havane va être obligée de suivre et c'est quelque chose de très important pour son économie. Parce que le nombre l'économie cubaine repose en grande partie sur le secteur touristique. Et donc, dès le moment que ce secteur touristique est modifié, donc l'économie va énormément souffrir. Disons, pour vous donner un exemple, pour le moment, on considère entre presque 900 000 touristes qui sont allés à Cuba en 2018. On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est autour de 890 000, 900 000 touristes qui sont allés à Cuba.
Et c'était surtout avec des croisières, hein, c'est ça, des voyages de groupe en croisière, comme ça il n'y avait pas de nuit passée sur l'île, c'était simplement une étape en fait dans le parcours de ces bateaux.
C'est une étape dans ces bateaux-là, mais il y a aussi les voyages des groupes qui sont très importantes aussi, des petits groupes de 12-15 personnes qui font du tourisme à Cuba, qui sont amenés par des guides. Et donc ça, c'est quelque chose aussi de très important, qui fait partie de l'économie cubaine.
Ça s'ajoute à des sanctions déjà au mois d'avril. Hein, les États-Unis avaient ajouté plusieurs sociétés cubaines sur leur liste noire d'entreprises qui peuvent pas bénéficier de transactions financières américaines. Donc tout ça, pour répondre à notre auditeur à Bamako, sur l'économie cubaine, concrètement, est-ce que ça va quelles vont être les conséquences?
Oh, les conséquences vont être immenses, parce que Cuba, selon les dernières statistiques qu'on a, Cuba pourrait perdre 130 millions de dollars par année.
Ah, énorme,
c'est,
oui.
C'est énorme parce que une grande partie de tous ces touristes font marcher les hôtels, les chambres d'hôtes, les restaurants, ce qu'on appelle à Cuba les paladares. Ok, et donc les guides touristes et les guides touristiques, donc tout ce qui est touristique, et les villes aussi, donc à ce moment-là, ça va être quelque chose de très important au niveau de la perte.
Est-ce qu'il y a une crainte à Cuba, il y a une période qui est très marquante hein, pour le pays, qui est appelée la période spéciale, periodo especial,
oui.
C'est une période dans les années 90 avec l'effondrement de l'URSS qui a été marquée par des pénuries, une grave crise économique. Est-ce que pour les Cubains aujourd'hui il y a cette crainte-là, ce retour à une période spéciale?
Oui, d'une certaine façon oui, parce qu'ils ne savent pas très très bien de quelle façon ils vont pouvoir gérer cette crise-là. Ils dépendaient énormément de cet argent touristique, des touristes qui arrivaient à Cuba, et donc maintenant il faut trouver des autres liens, des autres secteurs. Et là, c'est quelque chose d'assez important.
Effectivement, le réchauffement historique lancé par Barack Obama semble bien, bien loin. Aimé, on vous retrouve pour votre seconde question. C'est à vous.
Oui. Vu que les États-Unis accueillent de nombreux réfugiés cubains, comptez réagir face à ces nouvelles sanctions?
Alors, les exilés cubains, effectivement, très nombreux à Miami. Monsieur Menendez, comment est-ce qu'ils vivent de loin ce refroidissement entre Washington et La Havane?
Écoutez, c'est assez difficile de dire spécifiquement comment est-ce qu'il est récent, mais il y a deux vagues, deux groupes, deux options qui sont très très claires. Une, c'est celle d'une droite cubaine, hein, qui est très très forte au niveau politique aux États-Unis, et donc des élus au niveau des républicains. Donc là, c'est quelque chose que le président Trump est en train de jouer avec pour pas perdre le soutien de la communauté cubaine.
En vue de la présidentielle de l'an prochain, c'est ça?
Voilà, ouais, ouais. Voilà. Et c'était quelque chose qu'il avait déjà vu, constaté, dans l'élection de 2016.
Bon, écoutez, merci beaucoup, monsieur Menendez. On reviendra sur les conséquences de ces nouvelles sanctions américaines. En tout cas, pour Cuba, malgré ces sanctions, La Havane l'a dit, pas question de céder sur sa solidarité avec le Vénézuélien Nicolas Maduro. Cette solidarité, dit La Havane, n'est pas négociable. Donc, réaction après ces nouvelles sanctions américaines. Merci beaucoup à vous, Mario Menendez, et Aimé. Bonne journée à Bamako. Notre dernière question est footballistique. Nous sommes avec Joël à Kinshasa. Bonjour Joël.
Tous les auditeurs de la radio mondiale.
Allô, allô. Oui, on vous entend et vous aviez des questions à propos de cette fameuse finale de la Ligue des champions africaine.
Évidemment, j'ai trois questions par rapport à cette finale de la Champions League africaine. La finale de la Champions League africaine entre l'Espérance de Tunis et les WAC de Casablanca doit être rejouée en raison d'une panne de l'assistance vidéo. Alors, je voulais savoir comment expliquer cette décision alors que les règles du football ne prévoient qu'un match ne peut pas être invalidé en raison d'une défaillance de la VAR?
Alors, stupeur et tremblement effectivement pour l'Espérance de Tunis hein, qui doit rendre son trophée, ses médailles. La décision de la CAF, effectivement, la finale entre l'Espérance Tunis et le Wydad Casablanca sera rejouée après une finale, on s'en souvient, dans la confusion. Thomas de Saint-Léger, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Comment expliquer cette décision qui a suscité un véritable tollé en Tunisie?
Alors, pour être précis, d'abord, notre auditeur parle d'une règle remise en cause par cette décision.
Oui.
En fait, il y a deux règles. La première, c'est donc celle-ci. Un résultat ne peut pas être invalidé en raison d'une défaillance de la VAR.
Donc l'assistance, l'arbitrage, l'assistance
exactement.
Vidéo.
Ça, c'est une règle de l'IFAB, si vous voulez. C'est le garant des lois du jeu du football. Segundo, et ça, c'est dans le règlement, c'est dans le règlement de la CAF, si une des équipes se retire du match retour de la finale, quelles que soient les circonstances, c'est précisé, l'autre est sacré. C'est ce qui s'est passé.
Bah alors, les règles ont été respectées,
mai,
alors.
Voilà. Et pourtant, la CAF, ou plutôt son comité exécutif, est revenu mercredi dernier sur la décision initiale. D'abord, il faut expliquer aussi comment ça s'est passé mercredi dernier. Des débats à Paris, en marge du congrès de
assez
la FIFA.
Assez long, apparemment.
C'est ça. Long. Difficile, houleux, ils se sont étirés sur deux jours au lieu d'un seul. Et puis donc un vote du membre des comités, des membres de ce comité exécutif. Ce vote donne donc match à rejouer sur terrain neutre et la justification est la suivante, je vous la lis telle quelle. Les conditions de jeu et de sécurité n'étaient pas réunies lors du match retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF, empêchant le match d'arriver à son terme. Explication qui a fait bondir en Tunisie. Le sujet sécuritaire là-bas est très sensible. L'affaire a même pris un virage politique. Le Premier ministre Youssef Chahed est monté au créneau.
Il a parlé d'une farce.
Une farce, une mascarade de la CAF. Il a aussi rendu hommage aux policiers. On ne touche pas comme ça aux forces de l'ordre en Tunisie. Quoi qu'il en soit, cet argument sécurité brandi par la CAF, il ne convainc pas grand monde, mais il fallait bien justifier. Petit 1, l'énorme pataquès du 31 mai. Petit 2, les longs, très longs débats de la semaine dernière. Petit 3, cette décision finalement inattendue et très, très, très contestée.
Contestée, polémique. Joël, autre question après cette décision polémique dont on vient de parler.
Oui, alors l'Espérance est définie qui a remporté les matchs invalidés. Peut-elle faire un recours concernant cette décision?
Thomas de Saint-Léger, est-ce qu'il y a un recours possible?
Oui, c'est son droit, son intention. Les dirigeants du club tunisien se sont dit, je les cite, déterminés à utiliser toutes les voies légales. Il devrait rapidement se tourner vers le TAS, le tribunal arbitral du sport. Vous le savez, c'est en général cette instance qui tranche dans ce type de litige. Ce feuilleton, Charlotte, devrait connaître de nouveaux épisodes prochainement.
Alors, je me fais le porte-voix de Joël à Kinshasa. La ligne était assez mauvaise avec cette dernière question. Le match devra être rejoint en principe en terrain neutre. Où ce match pourrait-il se jouer et quand?
C'est assez vague. Après la CAN, ça c'est sûr.
Donc la CAN, ce sera jusqu'à fin juillet, le 19 juillet.
C'est ça, jusqu'au 19 juillet. Et c'est logique d'ailleurs. Quand, précisément, il y a un point d'interrogation, ça dépendra peut-être des suites de ce feuilleton, suite que je viens d'évoquer. Si un appel est en cours auprès du TAS, on voit mal comment le match pourrait être rejoué dans l'intervalle. Ce qui est sûr, c'est que si cette rencontre est rejouée, ce sera avant la fin de l'année, parce qu'au mois de décembre, l'Afrique doit envoyer un représentant au Mondial des clubs au Qatar, et ce représentant, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions.
Et pour l'instant, il n'y a pas de vainqueur.
Pour l'instant, il n'y a pas de vainqueur et il n'y a pas de terrain neutre évoqué donc pour cette rencontre. On parle de l'Afrique du Sud. Le problème, quand on voit la distance avec le Maroc, avec la Tunisie, quand on sait aussi que les stades sud-africains sont rarement complètement remplis, on risque d'avoir des tribunes qui peuvent sonner creux. Et ça encore, en termes d'image, c'est évidemment très très mauvais pour la CAF.
Ce qui est sûr, c'est que le résultat du match aller sera conservé.
Ah oui, un partout.
Ça, c'est la
partout,
certitude qu'on a.
Il n'y a pas eu de litige sur ce match, donc un partout sur le terrain du Wydad.
Décidément, le foot africain en période de turbulence, avec, on le rappelle, l'interpellation puis la libération d'Ahmad, le président de la CAF à Paris la semaine dernière. par l'Office anticorruption. Donc ça fait des ordres, bien sûr, avant le début de cette CAN qui approche. Merci à vous, Thomas de Saint-Léger du service des sports de RFI. Merci à Joël à Kinshasa. D'ailleurs, Kinshasa, où vous attend Juan Gomez, qui vous donne rendez-vous demain pour l'enregistrement de deux émissions. Ça se passe à 16h à la halle de la Gombe. Rendez-vous donc demain, 16h, Kinshasa. Quant à nous, on se retrouve dans 10 minutes, juste après le journal. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.